Afternoon, everybody. No!
We'd like the Black Legion to stop this farmer strike on behalf of American prosperity. And in return, we're offering substantial support for as long as our business interests and your moral crusade both continue to happily coincide.
God damn it, Chantal! What is wrong with you?
What do you think banks do with money? Put it in other banks?
No, they do what everyone with money does. They use it to rout and pillage and plunder because that is the American way.
So Alex Ciambrulli claims that he got a hand job from Sarah Pearson.
Hold on. I can't talk to you about that.
Murder board. Murder board. Murder. No chanting.
You're slut shaming me. Shame on you.
Girl, can you come down off the cross? We need the wood.
Happen Leonard! Come out and play!
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, épisode 6 de la saison 6. Il n'en manque plus qu'un pour que ce soit une émission un peu diabolique. Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
Ça va bien?
Ça va bien, oui.
Une nouvelle édition qui se prépare avec un début d'émission toujours consacré à la revue de séries télévisées que tu as visionnée pour nous dernièrement et sur lequel tu vas émettre un avis et on t'écoute.
Alors, on va commencer par des nouveautés, hein, comme d'habitude, et je te propose de découvrir la nouvelle version d'une série que peut-être certains de nos auditeurs ont regardé quand ils étaient plus jeunes, qui s'appelait Sabrina. C'était l'histoire d'une jeune sorcière qui vivait avec ses tantes et son chat. Je dois t'avouer que j'ai jamais regardé cette série-là. Je vois à quoi ressemblait l'actrice principale, mais c'est tout, quoi, hein. Donc, je pourrais pas te dire à quel point cette série-là était bonne ou pas, je n'en sais rien. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que cette nouvelle version n'a pas grand-chose à voir avec la précédente. La précédente faisait très fort série pour très jeunes adolescents, je dirais, enfants, ou même enfants. Et ici, mais c'est quand même beaucoup plus noir comme ambiance. Et donc, pas forcément à mettre directement
dans les mains des plus jeunes.
Devant tous les regards. Même si ça n'est pas du tout trop choquant, hein, mais il y a quand même des scènes qui pourraient heurter les plus jeunes, ça c'est sûr. Ça s'appelle Chilling Adventures of Sabrina, cette nouvelle version, et c'est proposé sur Netflix, pour ceux qui se le demanderaient. Alors, pourquoi je t'en parle? Ben, je t'en parle parce que j'ai bien aimé.
Ah oui, tu as aimé, toi.
Étonnamment, hein, parce que ben, justement, je m'étais dit, allez, je teste un épisode sans grande conviction, parce que je savais plus ou moins à quoi ressemblait la version précédente, et donc j'y avais été sans aucune attente. Et je ne crois pas que ce soit la seule raison pour laquelle j'ai bien aimé, parce que il faut dire que c'est très soigné au niveau de la mise en image. Alors avec un style très particulier, hein, on est dans un truc un peu gothique, on pourrait présenter les choses comme ça, mais je dois dire que c'est assez réussi. Y a aussi un côté un petit peu conte de fées horrifique, si je peut m'exprimer ainsi, dans la mesure où la Sabrina en question est quand même un peu comme une princesse, très souvent avec des très jolies robes. Et d'ailleurs, Ça, par contre, ça me plaît un petit peu moins. L'actrice qu'ils ont choisie pour jouer son rôle, que les sériphiles connaissent déjà, puisqu'elle jouait la fille de Don Draper dans Mad Men. Bon, elle a grandi un petit peu depuis, hein. D'ailleurs, dans Mad Men, elle avait déjà grandi pas mal. Mais elle a une manière de jouer très théâtrale, un petit peu grande bourgeoise en devenir, comme ça, qui parfois peut un petit peu me laisser en dehors. Je dois avouer que c'est la seule chose vraiment qui ne me plaît pas tout à fait, c'est le choix de l'actrice. Je suis pas sûre que j'aurais fait ce choix-là. Mais bon, c'est pas extrêmement dérangeant non plus, hein. Ça reste quand même. Elle ne joue pas mal. C'est juste que je le jouerais pas comme ça si j'étais elle. C'est pas exactement la même chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc au niveau de l'image, c'est joli. Franchement, c'est vraiment soigné. Au niveau des histoires, alors jusqu'ici, et il faut croire que je les ai quand même dévorées vu que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai déjà vu 8 épisodes sur 10. Donc autant dire que pour un truc que je comptais tenter et puis vite jeter, on est loin du compte. Et les aventures qui y sont représentées sont vraiment... entraînante, intéressante, avec très très souvent un sous-texte assez intéressant aussi. Et on aura l'occasion d'en reparler dans la suite de l'émission, vu que cette série a un petit peu donné le thème pour l'émission d'aujourd'hui. Mais on retrouve d'un côté des inspirations du côté de la famille Adams, par exemple, parce qu'on a une sorte de retournement des valeurs au sein de la famille de Sabrina, la famille de Sabrina qui est une famille de sorcières, donc, et qui voue donc sa vie à Satan. Hein,
c'était pas loin avec l'épisode 6 de saison 6.
Exactement. On revient vraiment donc aux origines même du mythe de la sorcière. Et donc, on joue un petit peu avec ça. Par exemple, il y a un épisode où on va nous présenter le pendant... des sorcières de la fête d'Halloween, par exemple, qui est un petit peu différent. Il fallait un petit peu s'en douter. Il y a aussi l'épisode suivant, il parle du pendant je vais dire païen, mais je ne sais pas si on peut vraiment le présenter ainsi, parce qu'ils sont quand même très très dévots vis-à-vis du diable, finalement. Il y a le pendant du Black Friday, où là, bon, il n'est pas vraiment question d'aller dévaliser les magasins, si tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a tout un jeu comme ça, où on s'amuse à renverser nos codes à nous, les codes de notre société, que ce soit au niveau... justement de ces petites habitudes de calendrier, mais c'est aussi vis-à-vis du rapport à la religion, évidemment, du rapport à la morale et à ce qui se fait ou à ce qui ne se fait pas, puisque les sorcières se permettent quand même quelques libertés que nous n'aurions pas idée de faire. On a comme ça tout un jeu qui est permis grâce à cet univers des sorcières. Également au point de vue religieux, c'est assez intéressant, parce que alors que on pourrait présenter le côté sorcière dans son côté très libre, finalement, on est libéré de la religion, etc. On se retrouve dans cette série-là avec simplement un culte opposé, mais tout aussi tout aussi puissant, si pas encore plus exigeant, quoi. Hein. On est vraiment un peu comme face à des sectes sataniques capables d'exiger jusqu'au sacrifice de certains de leurs membres. Donc, c'est pas mal du tout à ce niveau-là. On va avoir dans certains épisodes une intrigue isolée et qui va se clôturer à la fin de l'épisode, et puis d'autres épisodes où l'intrigue permet de faire avancer un fil conducteur plus sur l'ensemble de la saison. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette série.
Oui, tu y as vu beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que tu as pu analyser.
Oui, tout à fait. On va aussi un petit peu penser à Buffy, probablement, en regardant
oui,
cette série-là. Alors, faut pas non plus exagérer, monter sur ses grands chevaux, etc. Pour que Buffy soit Buffy, ben, il a fallu quand même un certain nombre de saisons. Hein. Donc ici, on n'est qu'à la saison 1, on va se calmer. Mais néanmoins, il y a un petit sous-texte où on fait jouer aux figures fantastiques et surnaturelles un certain nombre d'émotions ou de problématiques sociales et notamment féministes. Et je dois dire que c'est assez bien joué dans la manière de le faire. Le seul problème, c'est que c'est pas toujours d'une cohérence absolue. D'un moment à l'autre, ça varie. Et donc, parfois, on ne sait plus trop bien, finalement, quel est le sous-texte qu'on essaie de nous présenter. Je donne juste un exemple. Il y a quand même une idée bon, qui est assez traditionnel quand on parle de la sorcière, d'une forme de libération des femmes face à un patriarcat, un oppresseur masculin ou que sais-je. Et donc, il y a certains moments où il y a ce sous-texte-là, avec notamment la famille de certains autres personnages qui font partie d'une longue lignée de chasseurs et dont on sait ou on croit savoir qu'ils ont aussi chassé des sorcières dans les temps anciens. Et comme par hasard, il s'agit plutôt d'une famille avec que des hommes à l'intérieur et très très viriliste dans leur manière de voir la manière dont les hommes doivent se comporter, quoi. Donc parfois on a ça avec l'idée que la sorcière c'est la liberté de la femme, etc. Et puis à d'autres moments, mais on va avoir une secte extrêmement fermée, sectaire, justement, dans lesquelles les femmes sont totalement oppressées par un autre, le grand chef de cette église-là, qui est lui aussi un personnage masculin et qui, finalement, va faire subir aux sorcières plus ou moins les mêmes choses qu'on pourrait reprocher au patriarcat en général. Voilà, parfois je me dis, ils pourraient peut-être un peu choisir leur camp ou être un petit peu plus clair, mais néanmoins, c'est quand même toujours intéressant. Quand on regarde un épisode, il y a toujours plein de d'interprétation qu'on peut aller chercher, et ça n'est pas en vain. Je dis ça pourquoi ? Parce que ces derniers temps, il y a quand même quelques autres séries avec des sorcières qui sont sorties, notamment la série Charmed, la série est-ce que c'est un remake de Charmed ? Je crois que c'est pas exactement les mêmes personnages, ce sont des autres, mais bon, bref. Charmed qui est donc une reprise d'une série des années 90, si je ne m'abuse, que je n'avais pas vue non plus, hein, donc comme ça on est très clair. Mais qui me semble beaucoup moins réussi, lui aussi. Ben, on est dans une période dans laquelle ça fait bien de sortir son petit drapeau féministe. Donc lui aussi fait des allusions un peu féministes. Lui aussi, par exemple, dans son premier épisode, va nous sortir l'expression witch hunt, la chasse aux sorcières, qui va être utilisée évidemment avec tout un sous-texte un petit peu ambigu, où on sent qu'ils veulent un peu nous faire sentir, regardez, nous sommes ouverts à une pensée progressiste telle qu'elle est en vogue actuellement, mais ça prend beaucoup moins, c'est beaucoup moins présent déjà dans les épisodes 2 et puis 3, et donc je suis pas sûre du tout que ce soit autre chose qu'un prétexte dans Charmed. Alors bon, peut-être que sur le long terme ça va davantage se confirmer, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, de ce que j'en ai vu 3 épisodes de Charmed actuellement, c'était beaucoup moins convaincant que Chilling Adventure of Sabrina, et en plus c'est beaucoup moins bien réalisé, moins beau. On voit qu'il y a quand même moins de moyens derrière tout ça aussi. Et donc, voilà. En gros, si vous avez envie de vous sentir un peu plus gâté avec des histoires de sorcières qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de voir non plus sous cette forme-là, comme je l'ai dit, je crois que Sabrina fera beaucoup plus l'affaire que Charmed.
Voilà,
ça c'était pour Chilling Adventures of Sabrina. Je passe à une deuxième nouveauté qui, elle aussi, alors on sait pas trop si c'est une sorcière ou si c'est autre chose, mais c'est quand même pas très clair. Ça s'appelle Light as a Feather. C'est Hulu, me semble-t-il, qui propose cette série-là, qui va nous présenter un groupe de filles qui, le soir d'Halloween, dans un cimetière, si je me souviens bien, va jouer au fameux jeu, alors auquel apparemment toutes les jeunes filles jouent là-bas, mais moi je connaissais pas plus que ça. Donc légère comme une plume, lourde comme une pierre, ou je sais pas quoi exactement, et dans laquelle une nouvelle venue va annoncer la mort, comment les différentes protagonistes vont mourir. Ça fait plutôt flipper, c'est un peu le but, hein. Et de fait, sans trop spoiler, il y a au minimum un certain nombre de choses qui vont se révéler vraies. Du coup, la suspicion va s'installer au sein du groupe, et on va essayer de mener l'enquête, comprendre ce qui se passe, et nous, en même temps, en tant que spectateurs, on voit aussi toutes les manigances du côté de la nouvelle venue en question, qui semble très très bizarre. Alors ça a l'air moins d'être de la sorcellerie que une créature étrange, mais en tout cas elle fait pas que du bien. Bref, je dois dire que j'avais plutôt été amusée par les 2 premiers épisodes. C'était léger, alors peut-être pas comme une plume, mais pas loin. En plus, ce sont des épisodes d'une trentaine de minutes. En tout cas, ça allait assez vite à regarder. Et donc, je m'étais dit que c'était plutôt sympa. Au fur et à mesure que j'avance, je me désintéresse néanmoins de plus en plus de ce qui se raconte, principalement parce que, à cause du caractère un peu unidimensionnel des personnages. On a la méchante qui est très très méchante, en tout cas jusqu'à présent, il n'y a pas grand chose pour la sauver, et les gentils qui sont très très gentils, quoi, hein. Et donc, je sais pas comment cette saison va se terminer, mais ça se dirige pas vers un truc qui va me plaire encore longtemps. Donc, bon début, mais les promesses ensuite sont un peu déçues. Donc c'est dommage, parce qu'il y avait un côté un peu Gorfun comme ça, qui était plutôt marrant au début, et puis après ça devient un peu gnangnan et ouin ouin, donc voilà. Donc Light as a Feather, à tester si vous en avez l'occasion, mais je vous préviens tout de suite que ça devient de moins en moins intéressant, en tout cas d'après moi.
Et est-ce que tu vas continuer ?
Je crois que je vais terminer la saison malgré tout. Bon, comme je te l'ai dit, c'est pas très long à regarder. Je crois qu'il me reste 3 ou 4 épisodes. Je vais tenir le coup, tu vois. Mais oui, je suis un peu déçue par rapport à ce que promettait le début de la série, quoi. Je termine avec la troisième et dernière série. Cette fois-ci, comme d'habitude, ben c'est pas une nouveauté. Il s'agit d'une deuxième saison. C'est Atypical qui est revenu encore une fois sur Netflix pour une saison 2 très très similaire finalement à la saison 1. Hein. On reste sur le même mode. Un mode dont j'avais déjà dit, me semble-t-il, justement l'année passée, du coup, la saison précédente, que à la fois c'est vraiment touchant, les personnages sont sympathiques, on est content de les suivre et on n'a pas envie de les quitter parce qu'ils ont vraiment un caractère très attachant. En plus, la manière dont est traitée la question de l'autisme est très très légère et naïve, et donc c'est vraiment une série feel good, hein, finalement. Mais en même temps, et c'était déjà la même chose dans la première saison, il y a une petite frustration quand même quand on se retrouve devant cette série-là, parce que il y a un manque d'approfondissement du côté des personnages, quoi. On a vraiment l'impression que les personnages, on cherche pas plus que ça à comprendre leur motivation. On reste un petit peu comme si on était nous-mêmes en tant que téléspectateurs un peu autistes. Alors, je veux pas... leur prêter des fausses impressions, mais comme si, oui, on n'arrivait pas à suffisamment communiquer et comprendre la manière dont fonctionnent les gens qui sont en face de nous pour approfondir un petit peu qui ils sont. Et du coup, on reste toujours un petit peu en surface, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, surtout que le but justement d'une série, et c'est tout l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir approfondir nos personnages et approfondir leur motivation. Et là, ben non, on reste vraiment en surface. Bon, évidemment, le personnage le plus intéressant reste le personnage principal, le personnage donc du jeune... je me souviens plus son nom, Sam ou quelque chose comme ça. Du jeune personnage autiste de la série. Mais en dehors de lui, dont on comprend là quand même bien comment il fonctionne. D'ailleurs, il y a une voix off pour nous expliquer un peu comment il pense. Hein. Pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Et en plus, ce que je trouve problématique, c'est que les personnages masculins sont plutôt très très gentils et il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Ils sont même tellement parfaits que c'est difficile d'être... à leur hauteur. Et puis on a des personnages féminins très très imparfaits, voire insupportables, et je trouve ça un petit peu déséquilibré, quoi. C'est pour ça que du coup je me dis, peut-être que si on comprenait les motivations et les raisons de ces personnages féminins, ça aiderait un peu, mais c'est un peu dommage d'avoir la perfection face à l'imperfection totale, et toujours sur le mode masculin-féminin. Donc voilà, j'imagine que c'est ni voulu ni même conscient, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc voilà, j'ai pris du plaisir à regarder. S'il y a une saison 3, je la regarderai avec tout autant de plaisir, mais malgré tout, avec toujours un petit grincement de dents, notamment face au personnage de la mère qui est souvent insupportable et qu'on sauve pas beaucoup, quoi. On nous apporte pas beaucoup d'éléments pour la sauver. Et c'est dommage, et j'ai un peu peur qu'ils finissent par nous faire le même coup avec la fille, alors que y a une trajectoire qui devrait permettre un développement assez intéressant, et ce serait dommage d'en venir à ne plus l'aimer ou à lui en vouloir, alors que c'est quand même un des personnages les plus attachants de la série. Donc voilà.
Petit bémol néanmoins.
Voilà, exactement.
Bon, il est grand temps de marquer cette première pause musicale.
Oui, on va s'écouter « I put a spell on you » de Screaming Jay Hawking. Alors ici, c'est cette version-là, mais on l'a entendu dernièrement dans beaucoup de séries, dans différentes versions, notamment Big Mouth, Marvel's Luke Cage et Chilling Adventures of Sabrina.
I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up?
Suite de Série Folie avec un sujet abordé, le sujet du jour, qui est Aurore.
Mais qui est donc la magie. Hein.
La magie, hein, oui, il faut suivre un petit peu.
Oui, c'est ça. Je ne sais pas ce que tu fais, mais... Donc, on va parler de magie, donc, et j'ai donc passé en revue les différentes séries que je connaissais. Il y en a un petit tas, hein, je sais pas si tu es au courant, qui parlaient de magie. Alors, j'ai quand même été relativement souple dans mon interprétation, parce que si on doit s'occuper uniquement des séries qui représentent des magiciens ou des sorcières, bon, malgré tout, il n'y en a pas des centaines, hein, loin de là. Si je regarde dans ma liste, il y en a une grosse dizaine. Alors, il y en a sûrement plein que j'ai pas vu, mais malgré tout, assez représentatif sur un certain nombre de...
Centaines de séries. Hein.
Plusieurs centaines de séries, qu'on ait 10, 15 séries uniquement dans lesquelles on a vraiment des magiciens ou des sorcières. Mais je crois que ça montre que c'est pas une figure qui est extrêmement présente et représentée. Du coup, j'ai un peu ouvert le concept parce que finalement, il y a les gens qui font de la magie en tant que telle, mais si on regarde bien, il y a plein d'autres occasions dans lesquelles on a aussi l'occasion de voir quelque chose qui s'apparente à de la magie de manière plus ou moins proche. Par exemple, on a toute une série de fictions dans lesquelles on va avoir des créatures qui ne sont pas forcément magiciennes ou sorcières, mais qui néanmoins vont développer un certain nombre de pouvoirs magiques, que ce soit des dieux, des chasseurs de démons, des vampires, des fantômes, ou que sais-je encore. On a l'embarras du choix, des fées aussi, si on pense à True Blood par exemple. Donc on pourrait aussi dire que ces créatures-là nous parlent un peu de magie. On va aussi avoir certaines séries qui vont nous présenter plutôt des gens qui ont un pouvoir. Et là on se situe plus du côté des séries un peu soit science-fiction, soit super-héros, hein. Mais dont les pouvoirs s'apparentent plus à la magie qu'à de la science. On sait qu'il y a quand même beaucoup de super-héros qui obtiennent leur pouvoir suite à une expérience qui a mal tourné, par exemple. Je ne les ai pas pris dans l'eau parce que ça on pourrait les situer sur un autre plan, mais par contre il y en a certains. Je pense par exemple à un personnage comme Iron Fist. Malgré tout, ça s'apparente plus à une sorte de monde imaginaire un peu magique qu'à une expérience scientifique qui aurait mal tourné. On pourrait aussi mettre différents autres personnages dans ce tas-là. On pourrait mettre tous les personnages des 4400. On ne sait pas trop bien d'où viennent leurs différents pouvoirs, mais pour sûr, ils semblent un peu magiques et mystérieux. On ne sait pas d'où ils viennent. On pourrait aussi mettre les médiums là-dedans, de la série Medium par exemple, ou bien Ghost Whisperer. On pourrait mettre le personnage de Pushing Daisies qui ressuscite les morts par son toucher. On pourrait mettre aussi les personnages de Titan dont je parlais l'année passée, la série DC dont je parlais et qui semble aussi nous montrer des personnages avec des pouvoirs, mais on ne sait pas trop d'où ils les tiennent. On pourrait aller voir du côté de Minority Report. Oui, je te jure qu'il y a eu une série Minority Report, même si j'étais peut-être la seule à la regarder, elle a bien existé. On pourrait même pousser jusqu'à intégrer, par exemple, le personnage qu'on trouvait dans la série Here and Now, également de la saison passée, qui avait des visions qui lui annonçaient un événement à venir, où là aussi, ça pourrait éventuellement s'apparenter à des visions magiques. Donc j'ai intégré ça aussi. On pourrait ensuite penser à toutes les séries dans lesquelles on n'a pas une personne qui fait proprement dit de la magie, mais les personnages se retrouvent dans des situations créatures naturelles qui vont exiger d'elle d'inventer éventuellement des comportements ou une manière de s'en sortir qui sortent de l'ordinaire, quoi, hein, où on va plutôt se situer du côté de la magie ou d'expériences paranormales. On peut penser, par exemple, à Stranger Things. Dans ce cas-là, on va avoir à la fois ce cas-là et puis ce dont je vais parler juste après, donc on y revient. Je pensais aussi à d'autres séries, par exemple The Haunting of Hill House. On a une situation qui est un peu paranormale et face à laquelle les personnages qui eux-mêmes n'ont pas de pouvoir, ne sont pas magiciens, mais vont quand même devoir se débattre avec ce monde qu'ils ne comprennent pas et essayer de trouver des solutions qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est la même chose, par exemple, pour des séries dans lesquelles on va avoir du voyage dans le temps incompréhensible, comme dans 11-22-63, ou bien dans Dark, par exemple, ou même la série Counterpart, où on a deux mondes parallèles dans lesquels l'histoire c'est totalement séparé l'une de l'autre, et donc dans toutes ces situations là on a des personnages normaux qui vont devoir apprendre à dealer avec le surnaturel. Évidemment, on peut penser à Fringe, on peut penser à Carnival, on peut penser à Supernatural, on peut penser à... Je mettrais même à la limite My Name is Earl, hein, qui doit dealer avec le karma, et c'est pas forcément toujours facile. On sait que dans certains épisodes, le karma... va vraiment avoir quasiment une incarnation, en tout cas il va vraiment peser de tout son poids sur la situation. Alors, dernier cas dans lequel je pousse le bouchon jusqu'à les intégrer à la magie, c'est le cas dans lequel on va avoir un détournement d'expériences scientifiques ou technologiques qui fait que justement on va en arriver à des situations totalement incompréhensibles qui paraissent magiques. C'est le cas par exemple dans la saison 2 de Mister Mercedes qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça. Je parlais de Stranger Things, c'est particulièrement le cas dans Stranger Things puisqu'on a à la fois eu des expériences scientifiques et industrielles où on a joué un peu aux apprentis sorciers, d'ailleurs l'expression le dit assez bien, et à la fois des personnages normaux qui vont devoir essayer de gérer cette situation inhabituelle en faisant appel à des capacités qu'on n'est pas censé utiliser habituellement, par exemple aller voyager de l'autre côté du miroir ou en tout cas dans un monde parallèle pour essayer de retrouver une personne disparue. On peut aller aussi du côté de Maniac, aussi une série sortie il n'y a pas si longtemps que ça, dans laquelle on va avoir aussi à travers l'image de l'ordinateur et de la pharmacie, finalement, de pilules qui nous font voyager dans notre esprit. Finalement, on quitte le domaine des possibles, en tout cas, me semble-t-il, pour rentrer presque dans une forme de réenchantement d'un monde totalement... technologique et sans plus aucune âme. Dans Gotham, les gens obtiennent leur pouvoir aussi à travers les expériences de savants fous, et c'est le cas évidemment dans beaucoup d'autres séries de super-héros. Et on pourrait évidemment encore en citer beaucoup d'autres. On peut penser à Rick et Morty aussi, où là aussi c'est sous couvert de la science, mais sous couvert de la science, on va arriver à des mondes qui... Et à des aventures qui prennent une dimension quasi magique. Donc voilà, j'ai agrandi donc le cercle des séries que j'intégrais dans mon propos à tout ça. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on va y retrouver ? On va y retrouver bien sûr l'idée d'un pouvoir. Alors ce pouvoir, il va souvent être présenté, en tout cas, surtout quand il s'agit de sorcières ou parfois même de magiciennes, mais on va retrouver un pouvoir à la fois féminin et collectif. Hein. On peut penser à l'image du... je ne sais plus comment on dit en français d'ailleurs. En anglais, ils appellent ça le coven, mais en français, je ne me souviens plus comment on peut appeler ça. En tout cas, on a des espèces de grandes sororités de sorcières comme ça, comme on peut nous en représenter par exemple dans la saison 3 de American Horror Story, si tu te souviens bien.
Oui.
Donc, on a ce pouvoir qui va évidemment représenter un risque, hein, puisque la magie, dans ce cas-ci, est présentée plutôt comme une force du mal, une force éventuellement même de subversion de la morale, et qui donc va pousser à un certain nombre de persécutions. On peut penser, par exemple, à la manière dont sont représentées les sorcières dans Supernatural. Le moins qu'on puisse dire, c'est que même s'il n'y en a pas énormément, mais généralement, ce ne sont pas des personnages très positifs. Et la seule sorcière véritablement qui va avoir un rôle un peu plus important, finalement, c'est une figure très très trouble qui de temps en temps va accepter d'aider les deux héros, mais en même temps toujours avec un agenda derrière la tête et pour essayer de les manipuler, etc. On peut penser aussi à la sorcière rouge dans Game of Thrones, où là aussi la figure de la sorcière est assez controversée, c'est le moins qu'on puisse dire, et l'idée de la persécution n'est jamais bien loin de cette figure-là. Et puis évidemment, ces pouvoirs-là, ces pouvoirs magiques-là, ils vont toujours plus ou moins être opposés à la science, à l'idée de rationalité. C'est vraiment une forme de dichotomie presque essentielle à notre manière d'envisager les histoires en général, même si, comme je l'ai dit, dans un certain nombre de cas, bien souvent, on va finir par présenter la science et la technologie, lorsqu'elle en arrive à atteindre certains excès, comme à son tour une forme de magie noire quasiment, quoi. Donc ça, c'est pour un point. Et puis le dernier point que je voulais dire, c'est que la magie, c'est un pouvoir quand il s'incarne dans certains personnages, mais c'est aussi une force généralement sans nom, sans visage, une sorte de force naturelle qui va s'imposer à tout le monde et qui va exiger qu'on y trouve une solution, et une solution généralement qui sort totalement de naturel. Dans ce cas-ci, on a qui sort totalement de l'ordinaire, d'ailleurs. Dans ce cas-ci, on a vraiment l'idée que on a les lois de la nature qui sont plus ou moins compréhensibles et connues de tous, et puis on a des lois encore plus naturelles, encore plus ancestrales, qui remontent encore plus profondément dans la nature de ce que sont les choses. Et ces lois-là, c'est à travers la magie qu'on va pouvoir les découvrir. Et la magie exige aussi de s'y plier, et quasiment de les vénérer, quoi. Donc voilà, ça c'est pour notre première partie.
La mise en place et d'écrire un peu où tu as été pêché toutes les séries candidates.
Voilà.
Bon, pause musicale.
Alors, cette fois-ci, on va s'écouter I'm Every Woman de Chaka Khan, entendu dans Close.
La suite de Série Folie avec cette troisième et déjà dernière partie qui vous parle de magie dans les séries télévisées avec Aurore. On t'écoute.
Bien vu, c'est toujours avec moi, oui. Donc, j'en avais parlé quand j'ai parlé de Chilling Adventures of Sabrina. Donc, généralement, très souvent, l'usage du surnaturel dans les séries, ça permet d'avoir tout un sous-texte. Il s'agit souvent simplement de métaphores pour nous parler d'autre chose. Et donc, je voulais m'intéresser justement à ce sous-texte. Finalement, la magie, ça pourrait être la métaphore de quoi. C'est généralement utilisé pour nous parler de quoi. Alors, on commence par le premier point. Très souvent, la magie va être utilisée pour nous parler, comme je l'avais d'ailleurs expliqué dans la partie précédente, d'un pouvoir féminin, généralement partagé par toute une sororité. Ce qui signifie que parfois, et c'est par exemple le cas dans Buffy, on va avoir aussi le sous-texte de la magie comme manière de parler de l'homosexualité féminine. C'est le cas donc de Willow, avec laquelle on a vraiment l'usage de l'expression faire de la magie comme une forme, enfin une sorte d'euphémisme pour en réalité parler davantage de relations homosexuelles qu'elle entretient, notamment principalement avec Tara. Donc ça c'est une des métaphores quand même principales pour la magie, mais c'est évidemment pas la seule. Comme je l'avais aussi dit précédemment, mais c'est généralement une métaphore pour parler d'une force ancienne et généralement simplement pour parler de la nature. La nature qui s'opposerait à la nouveauté, à la technologie, à la culture, à la rationalité, etc. Et donc, mais si on couple ces deux métaphores ensemble, on voit bien à quel point finalement on va avoir une sorte de binarité assez traditionnelle de la pensée, en tout cas de la pensée occidentale dans laquelle nous sommes plongés, c'est-à-dire que du côté féminin, on va avoir la nature, éventuellement l'irrationalité aussi, puisque c'est une force qu'on n'arrive pas toujours à contrôler et qui en tout cas n'est certainement pas contrôlable par tout ce qui est technologie, rationalité, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus profond et de beaucoup plus sauvage. On va aussi avoir avec la magie l'idée que il va y avoir une possibilité de réconcilier l'esprit et la matière, ou l'esprit et le corps, qui va permettre une véritable ouverture au surnaturel. Une autre métaphore aussi, ça va être l'usage de la magie pour distinguer le monde séculier, le monde un peu matérialiste, rationnel, tel qu'on le connaît actuellement, et puis un monde spirituel qui serait éventuellement plus vrai ou plus authentique, hein, et qui nous ferait accéder à un pouvoir beaucoup plus profond et plus ancien, mais qui va éventuellement exiger aussi de notre part une très grande dévotion. Évidemment, on va avoir aussi l'usage de la magie pour parler des relations entre le bien et le mal, puisqu'on va avoir la magie blanche et la magie noire. On va avoir la référence éventuellement aux différentes divinités positives de la nature, etc., du côté du bien, mais du côté du mal, comme dans Sabrina, mais on va aussi évidemment avoir la figure du diable, le diable qui promet la liberté, mais qui, en échange de cette plus grande liberté, exige aussi une plus grande servitude, donc c'est particulièrement paradoxal. Je terminerai avec les deux dernières métaphores auxquelles j'ai pu penser. Mais on a la question de la maîtrise des éléments, la maîtrise de notre environnement, la maîtrise du monde, et puis aussi une question de perte de contrôle, puisque la magie, souvent, c'est aussi tellement compliqué qu'on peut très vite, ça peut très vite dégénérer et on peut ne plus en avoir le contrôle assez rapidement. Et enfin, dernière chose, eh bien, évidemment, on va avoir un combat entre Dieu et le diable. C'est par exemple le cas que l'on peut voir dans Lost, ou en tout cas que l'on peut essayer de comprendre dans Lost, où là aussi, on a une sorte d'île qui elle-même est magique, et avec toute la question, finalement, est-ce que la magie, c'est pas une manière de nous dire que Dieu et le diable, ou bien le bien et le mal, eh bien, ils existent bel et bien dans la réalité. Simplement, ils sont dans un état du monde tellement plus vrai que nous n'y avons pas un accès direct, quoi.
Belle pensée pour terminer cette émission. Il n'est pas tout à fait terminé, puisqu'on va partir en musique.
Oui, évidemment. On va s'écouter The Power of Love de Frankie Goes to Hollywood, entendu dans Misfits.
Merci à toi. À tout bientôt.
À bientôt.
Pour
oui.
une prochaine édition de Série Folie. On se quitte avec The Power of Love.
I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you, purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. Sublime love.
lovers entwined, divine, divine. Love is danger, love is pleasure, love is pure, the only treasure. I'm so in love with you, hurts the soul. Make love your.
Keep the vampire.